Chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous étions un certain nombre, même un bon nombre d'entre nous, réunis à Marton pour notre messe de rentrée, unique pour la paroisse, c'est vrai. C'est une contrainte, car quand on habite ici ou dans un autre secteur de la paroisse, il faut faire un certain nombre de kilomètres, ce nombre étant parfois supérieur à 20, mais ne sommes-nous pas habitués à faire des kilomètres en voiture pour les besoins de la vie courante, lorsqu'il nous faut acheter tel ou tel objet pour notre maison, ce qui est tout à fait légitime? Alors pourquoi ne le ferions-nous pas au moins de temps en temps pour le Seigneur? L'évangile de ce jour, frères et sœurs, nous offre une parfaite illustration de cet oracle du Seigneur prononcé par le prophète Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'auteur du livre de la Sagesse dit dans le même sens « Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Car les pensées des mortels sont timides, incertaines, et on pourrait traduire par mesquines. » Oui, frères et sœurs, la réflexion des ouvriers embauchés dès la première heure à propos des ouvriers de la 11e heure, car c'est la désignation traditionnelle, cette réflexion est typique de la mesquinerie de nos raisonnements humains. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Sous-entendu, puisque nous avons travaillé beaucoup plus qu'eux, nous méritons une récompense bien supérieure à la leur. Raisonnement très logique. C'est ici que l'interprétation traditionnelle de cette parabole par les pères de l'Église, les pères de l'Église, ce sont ces chrétiens des premiers siècles de l'Église, parmi où la plupart sont des évêques, qui ont une fraîcheur telle, ils sont proches de la source, vous voyez, puisqu'ils étaient seulement à 2, 3, 4 siècles du Christ. Nous, nous sommes bientôt, nous sommes à 2000 ans, ça fait un peu plus. Et quand nous lisons aujourd'hui leurs œuvres, eh bien, elles sont d'une actualité stupéfiante. Ça n'a pas vieilli. Eh bien, les pères de l'Église vont nous aider à saisir le sens de cette parabole. Le propriétaire de la vigne, nous disent-ils, c'est Dieu. Nous l'avions peut-être deviné d'ailleurs. Les ouvriers, ce sont ceux qui répondent à son appel. Le salaire d'un denier pour la journée, d'ailleurs le mot même le dit, hein, denier c'est le salaire d'une journée. Le salaire d'un denier, qu'est-ce que c'est? On pourrait faire le jeu question pour un champion. Et on aurait des réponses très différentes. Il y en aurait probablement qui diraient « c'est la vie éternelle ». Et là, je vous dirais « c'est ce qu'ont dit les pères de l'Église ». Ainsi, par exemple, saint Augustin, qui tient pour cette version du denier, qui est la vie éternelle, nous dit à ce sujet, lorsqu'il commente cette parabole, quand il s'agira de recevoir la récompense, nous serons tous à égalité, les premiers comme s'ils étaient les derniers, et les derniers comme s'ils étaient les premiers. L'un ne vivra pas plus que l'autre, ni celui-ci plus que celui-là, car chacun vivra également sans fin, tout en possédant sa propre gloire. Vous voyez ? C'est ça qui est bien. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de jaloux, parce que nous sommes tous comblés. Alors c'est vrai que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si vous lisez dans son histoire d'une âme, elle a cette image. Il y a le dé à coudre sera aussi plein que la grande chope de bière. On ne parle pas de chope de bière. Enfin bon. Nous serons tous comblés, mais à la mesure de notre capacité, vous voyez ? Est-ce que nous avons une toute petite outre ou une grande outre que nous aurons préparée par une vie tournée vers le Seigneur ? Toute notre vie est une préparation pour cette vie éternelle. Il paraît que nous sommes de passage sur cette terre, enfin... Si nous sommes chrétiens, c'est ce que nous croyons très fort. Essayons à présent de comprendre la signification des différentes heures du jour. Alors, si vous lisez dans certaines traductions qui reprennent fidèlement le texte grec, on parle de première heure, troisième heure, sixième heure, neuvième heure, et puis la fameuse onzième heure, qui donne le nom traditionnel de la parabole. Alors c'est très simple, hein, il suffit d'une note de bas de page pour dire l'heure zéro, si vous voulez, de laquelle on parle, c'est 6 heures du matin, d'accord ? On considère que c'est le moment où justement il commence à faire jour, 6 heures du matin, et ça va jusqu'à 6 heures du soir, vous voyez, 12 heures, et la 11e heure, oui c'est bien ça, c'est une heure avant 6 heures, donc ça fait 5 heures, là on a traduit. La 11e heure, c'est vraiment la fin de la journée, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Il y a deux interprétations possibles, la première et la deuxième. Nous pouvons comprendre le déroulement de la journée comme celui de toute l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est la manière dont Dieu conduit l'humanité depuis la création du monde jusqu'à nos jours, voyez. Dieu, c'est Dieu qui conduit l'histoire. En ce sens, les ouvriers de la première heure sont Noé et les patriarches qui ont répondu à l'appel de Dieu aux origines de l'humanité et du peuple juif. Les ouvriers embauchés au cours de la journée, troisième heure, sixième heure, neuvième heure, ce sont les prophètes et tous les justes de l'ancienne alliance qui se sont convertis en réponse à leur prédication. Et oui, c'est l'histoire sainte, comme on disait autrefois, l'histoire du peuple juif. Et les ouvriers de la onzième heure, figurez-vous, ce sont les chrétiens. Mais oui, parce que si vous lisez par exemple l'Épître aux Hébreux, on dit bien « en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils ». Nous sommes dans la dernière partie de l'histoire de l'humanité. Alors ça peut durer 2-3 000 ans, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est par rapport aux dizaines de milliers d'années qu'il y a eu avant le Christ ? Une autre manière de comprendre les différentes heures du jour, c'est que la journée de travail représente la durée d'une vie humaine. Les ouvriers de la première heure, ce sont ceux qui ont eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Il y en a parmi nous, probablement, même c'est souvent la majorité, de recevoir très jeunes les sacrements de l'initiation et de rester toute leur vie fidèle au Seigneur. Ben ça, c'est plus difficile. Parfois, il y a eu des allées et venues. Mais bon, les ouvriers de la première heure, vous voyez, c'est le, entre guillemets, ce qu'un auteur contemporain appelle avec humour le bon chrétien. Vous avez peut-être vu ce titre-là, les bons chrétiens. Les ouvriers de la sixième heure ou de la neuvième heure, bien, ce sont ceux qui se tournent vers le Seigneur à l'âge adulte. Nous en avons dans notre paroisse et c'est très beau de voir ces baptêmes d'adultes ou même d'adolescents chaque année. Les ouvriers de la onzième heure, ce sont ceux qui, dans la toute dernière phase de leur vie, se convertissent. Il y en a un que nous connaissons bien, puisque c'est l'Évangile qui nous en parle, c'est le bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Alors lui, c'était vraiment... c'était 6h moins 1, hein, si on prend la journée. Mais il est au ciel. Et alors, il y a un très bel exemple, on n'a pas le temps de développer, mais c'est Jacques Fesch. Pour mémoire, c'est ce meurtrier qui a été condamné à mort à l'époque. Hein, surtout qu'il avait tué un gardien de la paix. C'était en 1956, par là, dans les années 50, enfin, à Paris. Et il a été condamné à mort. Et figurez-vous que pendant son incarcération, il a vécu une conversion absolument fulgurante. Je vous invite, c'est une belle lecture, ceci, le journal de Jacques Fesch. Voilà, un bon exemple. Évidemment, c'est très rare, mais ça arrive. Et si nous sommes chrétiens, bien, ça nous réjouit. Ça nous réjouit. Nous n'allons pas être jaloux de Jacques Fesch. Alors, puissions-nous, frères et sœurs, puissions-nous entrer de plus en plus dans les vues de Dieu, hein, ces pensées qui ne sont pas nos pensées, ces chemins qui ne sont pas nos chemins. Puissions-nous élargir notre cœur aux dimensions de celui de Dieu et poser sur tous les hommes un regard plein de miséricorde et de compassion, comme nous y invite souvent le pape François. Demandons cette grâce les uns pour les autres au cours de cette messe.